Le journal de la mi-journée présenté par Claire Vigier, bonjour.
Bonjour. Une large majorité des Neuchâtelois ont désormais des anticorps contre le coronavirus. C'est ce qu'affirme une étude publiée ce matin. La proportion frôle les 80%. Sur les traces du lynx, le réalisateur Laurent Gélin a suivi ce prédateur. Pendant plusieurs mois, son film est projeté ce dimanche en avant-première à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds. Le NUC s'apprête à disputer son 50e match de Coupe d'Europe ce soir contre Zagreb dans le cadre des qualifications pour la Ligue des Champions. Le club de volleyball neuchâtelois avait entamé son épopée européenne il y a 11 ans. Séquence souvenir dans le Point Sport. Et puis rien que du soleil au programme de l'après-midi. Les thermomètres affichent des valeurs automnales de 11 à 14 degrés. Raphaël vous donne tous les détails d'ici un petit quart d'heure. Près de 8 Neuchâtelois sur 10 possèdent des anticorps contre le coronavirus. C'est ce qu'affirment ce matin les responsables de l'étude Corona Immunitas via un communiqué. Un chiffre obtenu en additionnant les personnes vaccinées et celles qui ont été naturellement infectées par le virus. Julien Hirt, vous êtes penché sur ces chiffres.
Il faut pour commencer prendre la mesure de la progression foudroyante de la proportion d'adultes neuchâtelois avec des anticorps contre le Covid. Il y a une année, on n'était même pas à une demi-personne sur 10. En mars, ça avait grimpé à 2 personnes sur 10 et là, on en est à 79%, 8 personnes sur 10. Donc, rendez-vous compte, on n'est pas bien loin des fameux chiffres de l'immunité collective réclamés par le Conseil fédéral. Autre constat des chercheurs, les différentes tranches de la population n'affichent pas des taux identiques. Chez les plus de 65%, 93% ont des anticorps, principalement grâce aux campagnes de vaccination. Moins vaccinés, les 20 à 64 ans n'en sont qu'à 75%. On en profite pour tordre le cou à une idée répandue. Selon les auteurs de l'étude, contrairement à ce qu'on pense, la vaccination induit une réponse immunitaire plus forte et plus protectrice que l'infection naturelle. Ce programme Coronavirus Immunitas regroupe 40 études menées dans 14 institutions de recherche du pays. Le but, c'est de déterminer comment le virus se propage dans les régions et dans les différents segments de la population suisse, des données qui permettent de lutter plus efficacement contre la pandémie.
Merci Julien. Et dans le canton de Neuchâtel, 562 personnes ont été testées dans le cadre de ce quatrième et dernier volet de coronavirus immunitas. Immersion en pleine nature à la découverte du lynx. Le film de Laurent Gélin est projeté dimanche en avant-première à La Chaux-de-Fonds et à Neuchâtel. Le réalisateur a traqué le félin avec sa caméra pendant des mois et des mois dans le Val de Travers. Il s'agit du premier film consacré à ce gros chat tourné uniquement dans son habitat naturel. La Suisse compte actuellement deux populations de lynx séparées géographiquement, celle des Alpes et celle du Jura. Le prédateur reste un animal très discret et chaque rencontre avec ce gros chat est un moment fort pour Laurent Gélin.
Il y a des moments où pendant 3, 4, 5 mois, je ne vois pas le lynx. Donc à chaque fois que je vois le lynx, il y a quand même une sacrée forte émotion, c'est évident. Et donc tout ce qui est visuel est particulièrement fort, mais j'ai une scène qui me reste vraiment dans la mémoire. C'est une scène qui, bizarrement, je n'ai pas réussi à filmer puisque j'enregistrais des sons, notamment l'appel du lynx pour mon film. Et une nuit, le lynx a appelé à une cinquantaine de mètres de moi. Et moi, j'étais allongé dans mon sac de couchage au sol. Et j'ai gardé le micro allumé, le casque sur les oreilles. Et j'ai entendu le lynx s'approcher, donc les pas dans les feuilles. Et puis tout à coup, les pas sur le chemin. Donc vous imaginez un chat qui marche, ça ne fait pas beaucoup de bruit. Mais si vous commencez à l'entendre marcher sur des petits gravillons, c'est qu'il est vraiment tout près. Et en fait, effectivement, il a fini par respirer dans mon micro. J'ai tout doucement déplacé mon micro, parce que c'est des gros micros paraboliques, donc il me cachait la vue. Et puis, il s'est dévoilé à moi, comme ça, illuminé par la lune. En fait, c'était vraiment une image absolument incroyable. Il a respiré dans mon micro et on avait les yeux, vraiment les yeux dans les yeux, en fait.
Laurent Gélin était l'invité de la matinale. Un entretien à découvrir en intégralité et en vidéo sur rtn.ch. Lynx est projeté dimanche en avant-première à 14h au cinéma Scala à La Chaux-de-Fonds et à 15h30 à l'Apollo à Neuchâtel en présence du réalisateur. Laurent Gélin sera également présent le 20 octobre à 20h au Colisée de Couvet. Un monstre d'acier pour entraver l'accès au bancomat et empêcher l'explosion. Une société jurassienne vient de créer et de mettre sur le marché Talos, du nom du gardien de la Crète dans la mythologie grecque. Cette cage de protection est destinée à sécuriser un distributeur habillé ou la vitrine d'un commerce. Elle est née dans la tête d'un architecte jurassien, Frédéric Ramseyer, approché par des banques victimes de brigandage. Une fois l'intervention brevetée, sa résistance à l'explosion a été testée. Un premier prototype est installé dans une banque jurassienne, Metalos compte bien conquérir le monde. Sa distribution est exponentielle, selon son inventeur, Frédéric Ramseyer.
Le potentiel est considérable, du simple fait que nous avons comme partenaire, distributeur, un des fabricants de bancomates, qui a vraiment une très grande part de marché au monde dans la fabrication des bancomates et sur l'installation. C'est exponentiel. Même si aujourd'hui on parle plutôt d'une limitation des retraits d'argent physique ou autre, l'argent liquide n'est pas mort, bien au contraire. Chaque bancomate devrait être équipé pour sécuriser le bâtiment, parce que lors d'une explosion d'un bancomate, les dégâts sont vraiment colossaux et j'ai peur que tôt ou tard, une surcharge d'explosifs puisse faire s'écrouler un bâtiment. Et là, ce sont des dommages humains qui seront importants. Et puis, je me dis que ça, c'est pas possible.
Vous avez l'impression que Talos pourrait conquérir le monde ?
Alors, c'est prétentieux si je vous dis oui, mais je pense qu'il a déjà commencé en Europe. Il y a des pays qui vivent le fléau de l'agression du bancomat, de banque, de vitrine. Oui, je pense qu'il va assez rapidement se propager sur la Terre.
Frédéric Ramseyer, interrogé par Cyprien Lovis. La société qui a créé Talos a reçu le soutien de la promotion économique jurassienne et bénéficie désormais d'un statut NEI pour nouvelle entreprise innovante. La pandémie a poussé l'horlogerie à se réinventer. Les ventes de montres en ligne devraient se poursuivre selon une étude sectorielle publiée aujourd'hui. Mais le numérique ne remplacera pas complètement les ventes dans les magasins traditionnels. La Chine, les États-Unis et l'Inde sont les principales destinations des exportations horlogères suisses. Toujours selon l'étude, les montres haut de gamme de plus de 3000 francs sont le principal moteur de la croissance du secteur. Immersion dans le monde de la jeunesse ce matin pour Guy Parmelin. Le président de la Confédération a rencontré à Berne des représentants des parlements des jeunes de tout le pays. Durant une petite heure, il a répondu à leurs questions. Il a pu donner le montant de son salaire au centime près. Il a parlé formation, tutoiement et vouvoiement entre conseillers fédéraux et urgence climatique aussi. Il répondait là à la question de la fribourgeoise Nina Giordano. À l'issue de la rencontre, la jeune femme de 22 ans a donné son taux de satisfaction quant à la réponse du président.
J'avais l'impression que c'était une réponse politique assez traditionnelle finalement. Je suis pas surprise. Ça confirme ce que je pensais de la difficulté pour les politiciens suisses de prendre des mesures concrètes face au réchauffement climatique, à la crise climatique.
Est-ce que vous êtes venu pour rien ?
Non, je pense pas qu'il y ait aucune tentative d'action qui puisse être pour rien. Il faut prendre toutes les occasions possibles et imaginables et tout d'un coup peut-être que ça lui aura planté une petite graine dans la tête. Je dirais qu'il a été assez politiquement correct, mais aussi assez ouvert et accueillant. Je suis quand même contente d'avoir été là. Ouais.
Guy Parmelin, de son côté, estime ne pas avoir perdu son temps ce matin, disant avec humour qu'il devait choyer les jeunes qui allaient payer son AVS. Les questions auxquelles il a dû répondre ne l'ont pas poussé dans ses retranchements.
C'était quand même des questions qui nécessitaient une certaine réflexion, en tout cas certaines. Et puis, il y a toujours des questions peut-être qui sont un peu surprenantes, mais c'était un bon échange. Ce que j'aurais peut-être préféré, c'est qu'on puisse continuer un petit peu l'échange. Mais bon, le temps est illimité pour être sûr qu'on reste dans le cadre. Puis après, ça dépend le temps que je mets à répondre.
Le message que vous avez voulu transmettre ?
J'entends, on peut manifester dans ce pays, on peut critiquer, on peut dire ça va pas. Mais il faut être constructif, il faut proposer des choses. Et si vous voulez peser sur la politique, ben il faut vous engager en politique. Si vous ne vous occupez pas de la politique, c'est la politique qui va s'occuper de vous. On peut très facilement changer les choses, mais à condition qu'on s'engage. Et je n'ai pas l'impression que toute la jeunesse veut s'engager autant que certains le font.
Un reportage de notre correspondant à Berne, Serge Jubin. Pendant ce temps, le groupe parlementaire des Verts a défendu son bilan à 1000 législatures, mais surtout présenté ses priorités pour les 2 ans à venir. Les parlementaires verts monteront au créneau pour défendre l'environnement, le congé parental et le droit de vote à 16 ans notamment. La Norvège sous le choc au lendemain d'une attaque à l'arc et aux flèches qui a fait 5 morts et 2 blessés à Kongsberg, dans le sud-est du pays. Un Danois de 37 ans a été interpellé. On en sait désormais plus sur son identité. Olivier Zano.
La police norvégienne a confirmé ce matin que l'auteur présumé était converti à l'islam. L'homme suscitait l'inquiétude depuis un certain temps, des craintes de radicalisation qui ont donné lieu à un suivi depuis l'an dernier, a précisé un responsable de la police lors d'un point presse. Mais aucun signal d'alarme n'avait été émis ces derniers mois. La police a déjà fait savoir que le suspect, interpellé hier soir peu de temps après les faits, résidait à Kongsberg, cette petite ville d'environ 25 000 habitants, toute proche de la capitale Oslo. Selon les premiers éléments, il aurait agit seul. Une enquête devra le confirmer toutefois. Elle devra aussi faire la lumière sur les raisons qui ont poussé l'auteur à tirer à l'arc sur plusieurs personnes. Scène irréaliste en pleine ville qu'ont décrit plusieurs témoins. Acte de folie, attentat terroriste, la question reste ouverte pour l'heure. L'attaque a dans tous les cas choqué le paisible royaume scandinave, une Norvège déjà meurtrie par deux attentats d'extrême droite au cours de la dernière décennie.
L'État doit réparer ses engagements non tenus de baisse des émissions des gaz à effet de serre pour lutter contre le réchauffement climatique. C'est ce qu'a ordonné aujourd'hui la justice administrative française dans une décision contre le gouvernement en la matière. Le tribunal administratif de Paris a donné raison à 4 ONG rassemblées sous la bannière L'Affaire du siècle, qu'il avait saisi début 2019 pour faire constater les carences de l'État dans la lutte contre le réchauffement.
Vous êtes à l'écoute de RTN, midi et 26 minutes.
Sport. Un rendez-vous doublement marquant ce soir pour le NUC à la salle de la Riveraine. Le club de volley-ball neuchâtelois reçoit Zagreb à 20h en match retour de l'avant-dernier tour qualificatif pour la Ligue des Champions. Le NUC disputera pour la première fois de son histoire à domicile une rencontre labellisée Ligue des Champions. Mais il s'agit aussi de son 50e rendez-vous dans le cadre des compétitions européennes. Une aventure qui a débuté il y a 11 ans. Marcel Neuenschwander.
Le NUC et la Coupe d'Europe, c'est devenu une véritable histoire d'amour, une manière de faire résonner le nom du club et de la ville aussi, au-delà des frontières nationales. Il est intéressant à ce titre de tirer un parallèle avec Neuchâtel Xamax. Même si l'impact médiatique du football est plus conséquent, l'épopée européenne des Rouges et Noirs avait commencé en 1981 par une campagne mémorable, participation au quart de finale de la Coupe UEFA après avoir frôlé la qualification aux dépens de Hambourg. Scénario identique pour le NUC, sa première campagne demeure la plus aboutie, automne 2010, élimination miraculeuse des Slovènes de Kamnik en 8e de finale de la CEV Cup, Golden 7 gagné 17-15 après avoir été mené 9-2. Entraîneur de l'époque, Philippe Schütz s'en souvient très bien.
Ouais, ça c'était incroyable. On dit toujours comme coach que on croit toujours en équipe, même si on a l'impression que c'est très très difficile. Mais je suis plus sûr si à ce moment-là, je voyais encore la victoire devant nous. Et puis avec une série de services, on a pu basculer le match et puis encore le gagner. C'était sûrement un des meilleurs souvenirs de ces campagnes.
En réalité, le NUC a participé à cette première aventure européenne une année seulement après sa promotion de l'élite en Liga. La présidente Jo Gugnesch n'était d'ailleurs pas trop enthousiaste à l'idée d'y prendre part. On retrouve Philippe Schütz.
Vu que le NUC était toujours un club qui ne voulait pas dépenser plus d'argent qu'on avait dans la caisse, c'était clairement une petite aventure, mais je pense qu'aussi au niveau du club, c'était une démarche très importante parce que ça a aussi permis au club de grandir, soit sur le niveau sportif, mais aussi sur le niveau organisationnel, parce que tout à coup, il fallait organiser un grand événement. Et ça, bien sûr, c'était encore dans les années où le NUC n'était pas encore au top du classement.
Depuis 2010, le NUC n'a jamais raté une saison européenne. Turquie, Hollande, Russie, Ukraine, Grèce et d'autres encore. Les volleyeuses neuchâteloises ont eu le loisir de visiter 16 pays différents. Les voyages forment la jeunesse, certes, mais ce n'est peut-être pas terminé.
Et le NUC est bien parti pour passer ce tour qualificatif de la Ligue des Champions. Vainqueur 3-0 à l'aller la semaine dernière en Croatie, il peut se contenter de perdre 3-2. En cas de défaite 3-0 et 3-1, les deux équipes devront se départager par un Golden 7. NUC Zagreb, un match à suivre en direct sur RTN ce soir dès 19h45.